Les cheminées des aciéries s'éteignent et c'est grave pour un pays quand le ciel redevient clair au-dessus des centres ouvriers. Or, il fallait choisir entre la protection du capital et celle du travail. Je vous reproche simplement de vous être fait élire sur une liste de gauche et de ne soutenir à l'Assemblée que des projets d'inspiration patronale.
Il y a des patrons de gauche, je tiens à vous l'apprendre.
Il y a aussi des poissons volants, mais qui ne constituent pas la majorité du genre.
Une grève surprise, bravo. Monsieur Grafouillère, vous êtes un meneur et vos petits camarades des inconscients. Vous semblez oublier en effet, mes amis, que vous n'êtes que des salariés. C'est-à-dire les êtres les plus vulnérables du monde capitaliste. Des chômeurs en puissance.
L'ordre étant rétabli, je demandais les pleins pouvoirs et les obtenais. Mais sauf pour les dictateurs et les imbéciles, l'ordre n'est pas une fin en soi. L'ordre n'empêche pas le nombre des chômeurs d'augmenter, ni les faillites de se multiplier. Je suis anarchiste.
Nous allons repeindre la vie, lui donner une couleur tendre. Nous allons installer le printemps dans ce pays de merde.
Ah là là, dire qu'on finit tous de la même manière. Trouvez pas ça humiliant?
Oh là là, il y en a des choses affichées la plus belle.
Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Vous êtes sur Radio Canu, il est l'heure d'un petit Canu Info estival. Tout va bien, nous allons parler de plein de choses ce soir, évidemment d'Israël-Palestine. On parlera des barbares, on ira à Singapour, mais on fera aussi une petite page un peu plus environnement. On parlera aussi des animaux torturés, on parlera d'un rapport super sympa sur les moutons. Mais tout de suite, on vous le disait, tout va très 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 bien partout dans le monde. Il me semble qu'aujourd'hui ça a pété un petit peu de partout. Par exemple, on pourrait dire qu'il y a eu 9 morts dans des attentats à Bagdad, 14 morts sur le mont Chaabi en Tunisie près de la frontière algérienne. Les attentats au Pakistan continuent encore et encore et toujours. En Afghanistan, les talibans ont attaqué l'aéroport. Acmi, Al-Qaïda au Maghreb islamique, a rejeté l'annonce de l'autre groupe État islamique qui veut faire un califat entre l'Irak et la Syrie. Ça promet donc de belles rencontres. Les mineurs migrants sont envoyés au Mexique sans discussion par les États-Unis d'Amérique. Au Nigeria, il y a eu 38 morts après l'attaque d'un village par Boko Haram. Au Mali, les groupes djihadistes continuent leur attaque et attentats pendant que M. François Hollande est parti en tournée africaine. En Libye, l'aéroport de Tripoli en partie détruit par des roquettes. L'armée algérienne aurait franchi la frontière avec la Libye pour une offensive. Ils le démentent, mais ça serait pourtant le cas. Il y a des combats très forts qui opposent en Syrie, près de la frontière avec le Liban, le Hezbollah au front Al-Nusra, ce qui est aussi appelé Al-Qaïda au Levant. Il y a eu 38 morts aux Philippines après le passage du typhon Ramansoum. On pourrait vous parler aussi de l'Ebola. Il y a eu entre le 8 et le 12 juillet 68 décès enregistrés. Au total, depuis le début de l'épidémie, il y a eu 603 personnes qui sont mortes. En Côte d'Ivoire, il y a des inondations très très importantes qui ont détruit la production de bananes. La Côte d'Ivoire est un pays, l'un des plus importants producteurs de bananes au monde. Et on nous a expliqué cette semaine que ça va mieux, puisque il n'y a plus que 1,5 million morts dus au sida. Un beau recul, certes, mais ça fait quand même toujours beaucoup de morts et tout va bien. D'ailleurs, ça va bien partout ailleurs dans le monde, n'est-ce pas?
Oui, alors moi je vais commencer par deux petites infos en bref avant de passer à la gros de ce qu'il y a une info, c'est-à-dire Israël-Palestine. Les petites infos brèves, c'est la première, la mort de Johnny Winter, qui avait 70 ans quand même, qui était en concert, je crois en Allemagne, et donc qui est mort. On n'a pas la cause de sa mort, mais à son âge, voilà, à savoir qu'il avait beaucoup abusé de drogue dans les années 70. Le truc un peu drôle, parce qu'il faut trouver un truc drôle autour d'un mort d'un musicien comme Johnny Winter, qui a laissé quand même un certain nombre de disques de blues. blues, parce que c'est un bluesman texan, donc blanc, hein, pour que tout le monde se rende compte, et avec des grands cheveux blancs d'ailleurs. Les news télescopent, c'est assez drôle à voir. La news du Figaro, je suis allé voir aujourd'hui, c'est le génie méconnu du blues texan est mort. Et sur les autres, mort du célèbre bluesman. Donc c'est drôle pour la majorité finalement des sites d'information. Johnny Winter était célèbre, donc connu et respecté d'ailleurs. Et pour le Figaro, il était méconnu. Bon voilà. Alors on rappellera au Figaro qu'il n'était pas du tout méconnu, qu'il a sorti des albums, notamment dans les années 70, qui étaient très bien. Après, il a eu une période difficile avec la drogue, mais que voilà, il sortait des albums de temps en temps et il tournait quand même pas mal. On a eu l'occasion de le voir plusieurs fois. Enfin voilà, c'était quand même quelqu'un de très connu dans le blues blanc texan, un petit peu, voilà, et pas du tout un inconnu, contrairement à ce que disait la dépêche du Figaro, même s'il disait pas inconnu, il disait méconnu. Voilà. Et puis l'autre news de la dernière demi-heure, c'est le crash d'un avion de ligne au-dessus de l'Ukraine, un avion de ligne malaisien, a priori abattu par un missile sol-air d'origine russe, mais je dis a priori parce que pour l'instant les infos sont pas très précises. L'avion est tombé avec 295 personnes à bord, ils sont tous morts a priori, et voilà, les autorités sont allées voir ce qu'il en était. Faut rappeler qu'en début de semaine, il y a quelques jours, un avion militaire ukrainien a été descendu par des armes russes. Alors les Russes ce soir se sont dédouanés, mais ça pourrait être les nationalistes russes ukrainiens, hein, qui ont fait ça, mais pas l'État russe directement, mais c'est quand même l'État russe qui fournit les armes. Là, si jamais c'est confirmé pour l'avion de ligne qui aurait été touché par un missile solaire, c'est pareil, hein, c'est forcément, même si c'est pas les Russes qui l'ont tiré et que ce sont les combattants russophones, c'est-à-dire c'est de l'extrême droite russe, des nationalistes russes, hein, de cette région, ça en ne dédouane pas ni la Russie ni ces groupes russes, ni d'ailleurs le gouvernement de Kiev, hein, qui est aussi en petite partie responsable de tout ça. Donc voilà, mais les infos sont encore un peu floues pour affirmer exactement ce qui s'est passé sur ce crash. Alors, on va repartir sur Israël-Palestine en commençant par cette trêve, hein, qui a duré quelques heures aujourd'hui, qui a permis aux Gazaouis de sortir, d'aller faire la queue devant les banques. C'était le plus gros problème du jour, de trouver à manger, de faire du stock. Parce que quand il y a la guerre, il y a une espèce de couvre-feu imposé par les bombes qui tombent. Pas un couvre-feu d'État, un couvre-feu imposé par les bombes. Du coup, c'est difficile de trouver à manger. Donc voilà, on fait du stock, c'est difficile d'avoir de l'argent aussi. Donc voilà, retrait d'argent. Dès que la trêve a été finie, Israël a recommencé à bombarder et a assassiné à nouveau 3 enfants. Bon, dont un de 7 ans, c'est 7, 8 et 10 ans, je crois bien. Alors, vous allez me dire, s'ils ont tué ces enfants, c'est qu'ils les ont visés. Alors, faut savoir que l'armée israélienne est une armée ultra moderne. Donc, quand ils tirent, comme on a vu sur la vidéo, quand ils tuent les 4 gamins sur la plage, c'était hier, c'est volontaire. Quand ils visent cet endroit-là de la plage, ils savent très bien, parce qu'ils ont des moyens de voir avec des précisions d'une vingtaine de centimètres. Donc, ils voient les enfants. Donc, ils savent que quand ils tirent un missile à cet endroit-là, il y a des enfants. Donc, c'est bien volontaire tout ça, même s'ils se cachent en disant qu'il visait une cache d'armes quelconque, mais c'est vraiment pas crédible. Donc voilà, 3 nouveaux enfants assassinés par l'armée israélienne. Il y a à noter un site israélien de défense des droits de l'homme dans les territoires occupés, donc Gaza et la Cisjordanie, qui s'appelle Betselem, qu'on avait rencontré nous l'année dernière. Donc des Israéliens qui se battent pour la paix, ils ont mis sur leur première page, ils remettent à jour à peu près avec un jour d'écart, le nom de tous les Palestiniens assassinés par l'armée israélienne. Donc voilà, ça fait une belle, c'est impressionnant et ça fait peur. Ils mettent l'âge aussi quand ils ont l'âge des personnes. Vous allez voir que pour l'armée israélienne, on est terroriste très tôt, hein, quand même, et membre du Hamas très tôt, vraisemblablement. Donc voilà, c'est quand même très très mal parti pour cette trêve. Alors, il y a une info qui est sortie dans un journal israélien qui s'appelle Ma'ariv, qui est pas du tout le journal de gauche qu'on connaît, Haaretz, voilà, pas du tout un média d'opposition, mais qui aurait récupéré d'un dirigeant palestinien une sorte de 10 revendications venant notamment du Hamas sur une trêve possible sur la bande de Gaza. Ça serait une sorte de négociation de trêve sur une longue durée. Le document a pas été authentifié, sauf qu'il a été repris par les agences de presse palestiniennes, donc ce qui est plutôt bon signe. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ces conditions horribles que demande le Hamas et qui fait qu'Israël les refuse systématiquement? Vous allez voir que ça se comprend pas toujours pourquoi Israël refuse, si ce n'est qu'on expliquera pourquoi après. Donc, ils demandent le recul des blindés israéliens qui encerclent la bande de Gaza à une distance suffisante pour permettre aux agriculteurs de travailler librement dans les champs qui sont à l'intérieur de la bande de Gaza. Parce qu'il faut savoir que l'armée israélienne a créé une zone tampon qui bouffe 20% des terres cultivables. Et c'est ces 20% que les Gazaouis voudraient récupérer. Deuxième revendication, libération des centaines de prisonniers raflés en Cisjordanie depuis l'assassinat des trois colons d'extrême droite israélienne, on en reparlera après. Ils demandent aussi la fin du siège de Gaza, c'est-à-dire ouverture des points de passage et levée de l'interdit frappant les matériaux de construction notamment, hein, parce qu'ils n'ont pas le droit de faire venir du béton, des choses comme ça, c'est compliqué. Ouverture d'un aéroport et d'un port international sous l'égide de l'ONU. Ils demanderaient l'extension à 10 000 marins, c'est-à-dire à 18 km, le droit de pêche dans les eaux territoriales. Alors c'est un des enjeux de la mer, on va voir qu'il y a un autre enjeu après au niveau du gaz, mais il y a un des enjeux, c'est la mer. Dans les règles international, ils ont droit à ces 18 km, mais Israël les refuse. Parce que Israël refuse, grosso modo, s'assoit sur toutes les règles internationales. L'assassinat d'enfants, par exemple, qui n'est pas autorisé au niveau international, hein, mais Israël le fait quand même. On l'a vu aujourd'hui encore, hier encore. Ils demandent donc que Israël respecte un cessez-le-feu. Israël respecte vraiment le cessez-le-feu et la trêve, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Par exemple, il y a eu des survols de la bande de Gaza. Un cessez-le-feu, c'est on ne va pas espionner l'autre non plus. Ils demandent aussi ce que les musulmans de la bande de Gaza puissent se rendre à Jérusalem sur l'esplanade des mosquées pour aller à la mosquée Al-Aqsa, qui est un lieu de culte pour leur religion. Ils demandent aussi qu'Israël arrête de se mêler des affaires internes palestiniennes, notamment on l'a vu quand il y a eu une réconciliation entre le Hamas et l'OLP qui a été torpillée de tous les côtés par Israël. Ce qui est une des raisons d'ailleurs de cette guerre, hein, de ces bombardements dans la bande de Gaza, c'est pour casser cette coalition, cette réconciliation. Et la dixième, la réouverture de la zone industrielle de la bande de Gaza, qui peuvent pas ouvrir. Voilà. Donc, quand on regarde tout ça, finalement, c'est pas si terrible que ça, ce qu'ils demandent. Sauf que, bien évidemment, chaque fois qu'ils demandent des choses comme ça, Israël dit non. Voilà. Donc, je crois que c'est assez clair là-dessus. Alors, ensuite, dans l'actualité, je voulais reparler d'une des raisons de la guerre. Alors, la première raison de la guerre, on rappelle que tout a été instrumentalisé par l'État israélien à partir du moment où les trois colons juifs ont été enlevés. À partir de ce moment-là, alors que le Hamas tout de suite a dit « mais nous, on n'y est pour rien », je vous rappelle que, premièrement, le Hamas n'a pas l'habitude d'enlever des gens. C'est pas, contrairement à Israël, qui a 3000 Palestiniens dans ses geôles, donc ils ont enlevé 3000 personnes, le Hamas n'a aucun prisonnier, entre guillemets, israélien. Ils en ont eu une fois, un soldat franco-israélien, ils l'ont assumé, ils l'ont dit tout de suite. Hein, il y a pas, voilà. Donc, quand ils disent on n'a pas enlevé ces trois colons d'extrême droite, ils les avaient pas enlevés, quoi. Par contre, après on a trouvé qu'ils étaient morts en plus, tout de suite, le gouvernement israélien, Netanyahou et surtout l'extrême droite, qui sont ses alliés, ont instrumentalisé le truc en disant voilà, c'est le Hamas qui a fait ça, c'est le Hamas, et on a le mot Hamas qui enfin le nom de cette organisation qui revenait tout le temps dans les news israéliennes, parce qu'ils avaient prévu dès le départ ces bombardements, et ils ont instrumentalisé ces trois colons qui ont été tués, et alors que personne n'avait intérêt, ni les Palestiniens ni qui que ce soit, à enlever ces trois colons et à les tuer, hein, parce que pour faire avancer un processus de paix, c'est pas efficace, hein. Voilà. Alors, il y a une autre question qui a été révélée par un journal britannique, et c'est pas la première fois qu'on en parle, c'est le problème du gaz. Alors, le problème du gaz, c'est quoi? Alors, il y a une belle carte sur Internet, je vous laisserai la chercher. Il y a un gros gisement de gaz dans les eaux territoriales de la bande de Gaza. Alors, si vous regardez sur une carte, Israël a une grande, grande partie de la côte, et la bande de Gaza, c'est tout petit sur la côte. Mais le gisement de gaz, il est en face de la bande de Gaza, en grande, grande partie. Du coup, ils sont coincés. Alors, dans l'histoire, hein, si on remonte un petit peu, alors 30 milliards de mètres cubes de gaz, hein, ça fait des milliards de dollars d'argent en jeu. En 99, Arafat avait signé un accord avec sous l'autorité palestinienne pour confier l'exploitation de ce gisement qui s'appelle Gaza Marine à un consortium tripartite. Il y avait British Group, Consolidated Contractors, qui était une compagnie privée palestinienne, et 10% des bénéfices et de l'investissement était fait par l'autorité palestinienne. Donc là, il y avait deux puits qui ont été creusés, hein, Gaza Marine 1 et Gaza Marine 2. Malheureusement, ils sont jamais rentrés en fonction puisque Israël a bloqué tout de suite leur exploitation parce qu'ils ne voulaient pas que les Palestiniens exploitent ce gaz et aient des rentrées d'argent, puisqu'ils avaient 10% des bénéfices d'office. Alors ensuite, Tony Blair, donc l'ancien Premier ministre, quand il était mandaté pour faire semblant de résoudre le problème israélo-palestinien, avait trouvé un accord avec l'autorité palestinienne, qui est un accord horrible, qui faisait qu'ils pouvaient exploiter, mais les trois quarts des revenus allaient aux Israéliens. Alors que c'est sur les eaux palestiniennes, c'est quand même énorme. Hein. Bon, le Hamas avait rejeté ça, en qualifiant cet accord de vol, ce qui était réaliste du coup, parce que quand les trois quarts vont à ceux à qui ça appartient pas, c'est bien évidemment du vol. Et donc voilà dans l'histoire. Ensuite, il y a eu des débuts de renégociation pour ce gaz avec Israël, notamment quand la Palestine est devenue un État observateur non membre à l'ONU. Bon, c'est resté encore bloqué. Et il y a eu une rencontre de Mahmoud Abbas avec Mr. Poutine. Et là, ils avaient évoqué l'exploitation par Gazprom du gaz. Donc là, c'était plutôt bien parti, notamment suite au nouveau gouvernement palestinien d'unité nationale début juin. On sentait que effectivement l'enjeu et l'accord, un accord était possible entre la Palestine et la Russie. Et du coup, peu de temps après, arrivent ces bombardements. On sent qu'il y a quand même aussi cet enjeu-là qui est derrière. Il n'y a pas que ce sont des méchants terroristes qui ont des bombes. Il y a bien évidemment, Israël l'assume depuis le début, ils ne veulent pas que le gaz soit exploité et que l'argent rentre dans l'autorité palestinienne ni dans le Hamas, enfin n'aille pas dans la poche des Palestiniens. Pourtant, sur la carte, hein, le jugement, il est vraiment en face de la bande de Gaza, il est dans les eaux territoriales de la bande de Gaza. Au niveau international, c'est imbattable. Hein. Mais Israël refuse tout ça. Donc ça pourrait être une des raisons qui explique ces bombardements. Alors, pour terminer avec une info, pour dire qu'on donne toutes les infos, ils ont trouvé des roquettes dans une école de l'ONU, une école désaffectée, hein, qui était vide, hein, puisque de toute façon, là, il n'y a plus d'école. Et du coup, ça valide la thèse qui est utilisée en permanence par l'armée israélienne comme l'autre fois, quand ils bombardent des gens qui sont dans un café en train de regarder un match de foot, en disant, oui, mais en fait, ils mettent des armes derrière et ils se servent des civils comme boucliers humains. Alors, bien évidemment, c'est totalement faux. Ils se servent pas des civils comme boucliers humains, sauf que à mon avis, ils planquent des armes là où ils peuvent. Donc c'est plutôt ça, on est dans une phase de guerre. Et donc du coup, c'est un peu plus compliqué. Ils mettent pas des civils devant systématiquement, mais ils ont des caches d'armes un peu partout. Forcément, quand on connaît un peu la bande de Gaza, qu'on voit comment c'est fait, chaque fois qu'on met quelque chose quelque part, il y a des civils autour. Hein. La bande de Gaza, c'est un des territoires les plus peuplés du monde. Donc du coup, ils se servent pas des civils. Les civils sont là d'office. Hein. Donc c'est bien de la propagande, même si là, effectivement, ils ont déposé ce qui a été condamné par l'UNVRA, hein, qui est l'agence de l'ONU qui s'occupe des enfants des réfugiés palestiniens. Donc voilà. Et pour terminer, une info qui est presque positive, sur l'enquête, vous savez, en soi-disant pour se venger de l'assassinat des trois colons juifs, un jeune Palestinien a été enlevé, torturé, brûlé vif et assassiné par trois Israéliens juifs, alors dont un est au moins un colon, ça on en est sûr, donc des grosso modo des groupes d'extrême droite, hein, comme il y a pas mal en Israël. Enfin, ailleurs aussi, hein, vous allez me dire, mais il y en a un à Lyon. Hein. Mais bon, ils brûlent moins les gens quand même, heureusement. Donc, l'enquête avance et le parquet israélien a inculpé aujourd'hui ces trois juifs israéliens pour l'enlèvement et le meurtre du jeune garçon. Ce qui est intéressant, c'est ce qui est divulgué derrière. Parce qu'ils nous disent qu'un des inculpés, donc un homme de 29 ans qui habite dans la colonie, dans une colonie en Cisjordanie, lui, avec un autre, ils sont déjà, ils ont d'autres charges qui ont été retenues en même temps, du coup, parce qu'ils ont essayé d'enlever un garçon de 7 ans, il y a quelque temps. Et on l'apprend que maintenant. Et c'est pareil, donc sur les trois, il y en a deux. Alors a priori c'est pas l'autre majeur, c'est parce que les deux autres ont 16-17 ans, ont déjà été soupçonnés, et du coup maintenant ils arrêtent aussi pour ça, pour avoir incendié notamment des voitures palestiniennes, pour avoir brûlé un magasin palestinien dans un village de Cisjordanie. Alors ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que s'il n'y avait pas eu le meurtre de ce jeune Palestinien, ces juifs d'extrême droite israéliens, ils n'auraient jamais été arrêtés pour le reste. A priori, c'est ce qu'on sent dans la news, c'est qu'on se dit, ils les arrêtent pour ce meurtre et ils en profitent pour les leur mettre tout le reste sur le dos. Sauf que le reste, ils le savaient déjà, en fait, qu'ils avaient fait ça. Ils n'ont pas découvert ça en enquêtant. Du coup, c'est quand même chelou, et ce serait surtout pas la première fois hein, que l'extrême droite israélienne juive est un peu protégée par l'État, très peu condamnée. On se rappelle que dans les exactions des colons, il y a très très peu de condamnations. Alors que de l'autre côté, il y a systématiquement des condamnations. Donc voilà, bon, on va quand même souligner qu'ils ont arrêté les trois assassins, a priori, de tout ça. Mais j'ai peut-être trop parlé, tu devais parler entre-temps, bah non, du coup, c'est à toi.
Moi, je vais te contredire.
Oui.
Parce que moi, j'ai bien lu.
Ouais, mais toi t'as blog... lu les mauvais sites.
Laisse-moi parler. J'ai bien lu le blog officiel de l'armée israélienne en français, tsahal.fr, blog dont j'aime beaucoup vous parler ici. Et alors, évidemment, je vous laisse deviner qu'en ce moment, c'est une explosion de nouvelles. C'est très drôle. Alors, je ris jaune, je vous le dis. Il y a un article, par exemple, du 10 juillet, qui nous explique que le droit international donne raison à Tsahal. C'est le nom de l'article.
C'est bien la première fois, dis donc.
Il nous explique pourquoi ils ont lancé cette opération. Le 8 juillet 2014, Tsahal lance l'opération Bordure Protectrice afin de restaurer le calme pour les habitants du sud d'Israël qui vivent sous la menace constante des roquettes depuis le mois de juin. Alors, ce qui est intéressant dans cet article, c'est que quand il parle du Hamas ou de Gaza, il dit souvent, dans de nombreux cas, c'est-à-dire qu'il y a souvent cette généralité comme ça, en tout cas c'est souvent et dans de nombreux cas. Alors il nous explique, lorsque les habitations sont utilisées à des fins militaires, elles deviennent des cibles militaires légitimes selon le droit international. Hein, je te réponds donc, Laurent. Tsahal vise uniquement des cibles légitimes définies selon les règles du droit international. Afin de déterminer ces cibles militaires, l'armée israélienne emploie des méthodes précises et complexes.
Ah bah précise, on a vu les quatre gamins hier et les trois gamins aujourd'hui se faire assassiner. C'était précis sur une plage. Hein.
Qui implique différentes unités des renseignements, les données juridiques et une formation rigoureuse suivie par les commandants des opérations. Mais lorsqu'une maison est considérée comme cible militaire légitime, Tsahal fait de grands efforts afin de ne pas nuire à la population civile. Je ne vous mens pas. En effet, l'armée utilise des techniques de retransmission en direct du lieu de la frappe avant qu'elle ait eu lieu, afin d'y vérifier la présence ou non de civils. Je te réponds encore.
Pas sur la vidéo d'hier, c'était pas ça.
Tsahal choisit également avec beaucoup de précautions les armes pour effectuer ses frappes. Lorsque cela est possible, l'armée prévient à l'avance de l'imminence d'une frappe aérienne. Voilà, donc je te réponds, vraiment, ils font tout pour que ça se passe bien. Hein. Il y a eu 4 morts, donc sur une plage, des enfants. Certains des efforts de l'armée israélienne vont bien au-delà des obligations légales auxquelles elle est contrainte. Je ne savais pas qu'elle se contraignait à quoi que ce soit, l'armée israélienne. Je l'ai donc appris dans cet article. Malheureusement, nous explique Tsahal, le Hamas exploite les précautions prises par Tsahal en utilisant la population civile comme bouclier humain afin d'empêcher les frappes israéliennes. Voilà, donc ça c'était du 10 juillet, 4 enfants sont morts, je le redis, et...
Nous... Beaucoup plus, hein, parce que sur les 235, il y a beaucoup d'enfants.
Beaucoup vous parlez de ces 4 enfants, je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs la vidéo, hein, puisqu'il y avait des journalistes qui ont fait les photos, mais il y a eu une vidéo aussi de TF1.
D'ailleurs, ouais, de TF1, et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes présents.
Oui, parce qu'il y a un hôtel où sont logés les journalistes qui est juste devant la plage, donc beaucoup étaient à leur fenêtre à ce moment-là, et ils ont donc pu voir, photographier et filmer ce qui était donc en train de se passer, tout ça en direct. Alors le 14 juillet, nous avons eu un article « Pourquoi le bilan humain de l'opération Bordure Protectrice est-il déséquilibré ?» Grande question, vaste question.
Moi je dis, le Hamas vise mal.
Pourquoi donc la population israélienne est-elle moins touchée? Alors, ils nous font des petites comparaisons. Alors là, on est dans le simplisme, dans cet article du 14 juillet. Alors du style, on nous explique, Israël, 2 points, c'est protéger les citoyens avec les armes. Le Hamas, 2 points, c'est protéger les armes au moyen des citoyens. Vous suivez le genre d'association qu'ils vont faire? Ensuite, ils nous expliquent, ils font 2 associations. Dôme de fer, hein, je vous la refais pas, et ils mettent en face bouclier humain.
C'est moins efficace le bouclier humain.
Ah, merde. Et alors après, ils ont un super truc qui s'appelle commandement du front intérieur. Déjà, le nom, ça pète. Donc ça, c'est qui est donc en charge de la protection des civils. On nous explique que c'est un acteur clé, tout ça, tout ça. Qu'ils font des formations dans les écoles, qu'ils ont sauvé des milliers de vies. C'est écrit. Qu'ils ont sauvé des milliers de vies. Et en face de ce commandement du front intérieur, il y a un truc qui s'appelle « Ignorer les tracts et SMS ». Donc là, il nous explique qu'en fait, le Hamas empêche les habitants de Gaza d'être informés par Israël du bienfait qu'Israël va faire donc à Gaza. Il termine par « clairement ». Virgule. Le Hamas ne prend pas en compte sa population et ne fait aucun effort pour épargner les pertes civiles, tout au contraire. D'ailleurs, là aussi je te réponds, 38 roquettes tirées par le Hamas ont atterri sur Gaza, nous explique-t-il dans cet article du 14 juillet. Et je vais donc poursuivre évidemment avec l'article du 16 juillet. Que fait Tsahal pour minimiser les pertes civiles à Gaza ? Cet article est énorme. 4 enfants sont morts sur une plage, filmés et photographiés en direct par des journalistes. Contrairement aux terroristes du Hamas, Tsahal fait tout ce qui est en son pouvoir pour minimiser les pertes civiles dans la bande de Gaza. Retour sur ses efforts qui prouvent le déséquilibre moral entre Tsahal et le Hamas. Alors on nous explique, il y a les appels téléphoniques, les SMS, les tracts, et même qu'ils sont capables de prendre la décision d'annuler des frappes aériennes, nous explique-t-il. Non, on n'a encore pas bien su quand, mais il paraît qu'ils sont capables de prendre la décision. Et alors surtout, ils nous expliquent que quand même, ils font plein d'efforts, puisqu'ils utilisent des bombes assourdissantes pour prévenir la population civile. Une autre technique d'avertissement courante appliquée par Tsahal, le roof knocking. Cela consiste à tirer des bombes assourdissantes non létales au-dessus des immeubles, destinées à prévenir les civils qui se trouvent à proximité d'une cible. Cette méthode est utilisée pour permettre aux habitants de quitter la zone avant que Tsahal frappe le site avec des bombes réelles, cette fois. 4 enfants sont donc morts sur une plage.
Ni entendu les bombes assourdissantes. Mais
ouais, bon. Et puis donc, ils cherchent donc à minimiser les pertes civiles à Gaza. Donc voilà, allez faire un tour, vous verrez, c'est toujours très intéressant d'aller voir aussi ce qui se passe sur ces sites officiels, je vous le rappelle, hein, qui représentent donc l'armée israélienne.
Un beau site de propagande.
Tout à fait. Il y a toujours beaucoup aussi de belles iconographies. Et puis alors maintenant, je vais poursuivre. J'avais envie de vous parler de Khaled Jarrah. C'est un artiste. Il devait se rendre à une exposition aux États-Unis d'Amérique qui s'appelle Here and Elsewhere. Il devait présenter un travail vidéo. Alors Khaled, c'est un artiste assez engagé. C'est bien pour ça qu'il a eu des soucis, puisqu'il n'a pas pu sortir de Cisjordanie. Il habite à Ramallah. Il est resté 10 heures au checkpoint. Il explique qu'il n'est pas le seul à être bloqué. Ce que nous, on pourrait analyser, c'est que les autres, c'est la masse. Et lui, c'est le cas particulier à cause de son travail d'artiste. Donc, il explique qu'il est resté très longtemps à attendre sans qu'on lui donne d'explication. Après, on lui a dit que c'était des raisons de sécurité, que jusqu'au 1er août, il ne pourrait pas voyager. Il explique que ça a été la journée la plus longue et la plus humiliante de sa vie, lorsqu'un des soldats qui s'adressait à son supérieur l'a traité de Zevel, ça veut dire ordure en hébreu. Donc je vous disais, c'est son travail qui est important. Il a, peut-être que ça vous dit quelque chose, c'est lui le créateur d'un tampon et d'un timbre de l'État de Palestine. Donc c'est un symbole qu'il a créé. Et puis surtout, il a fait une vidéo qui s'appelle Infiltrator sur les difficultés rencontrées par les Palestiniens et les Palestiniennes avec le mur de séparation. Et c'est cette vidéo qui devait être présentée à l'exposition new-yorkaise. Donc voilà, c'est évidemment un symbole, parce qu'il n'est pas le seul, mais l'État d'Israël condamne aussi ce genre d'artiste qui condamne Israël de son côté.
Et pour refaire un lien avec l'actualité française, vous avez peut-être sûrement entendu parler des incidents devant les deux synagogues à Paris lors de la manifestation de samedi dernier ou de dimanche dernier. C'était dimanche d'ailleurs, samedi c'était à Lyon. La manif qui n'avait pas eu de débordement. Ce qui a été donné par les journaux qui répondaient un peu à la propagande du CRIF et d'autres assauts de droite ou d'extrême droite qui sont du côté de l'État d'Israël, c'était une attaque dans le but de détruire les synagogues et les juifs qu'il y avait dedans, avec des insultes anti-juives et antisémites. Donc, même si c'est compliqué le mot antisémite avec les Palestiniens, on rappelle qu'ils sont aussi sémites, mais ça faudrait que les juifs ces juifs-là là, d'extrême droite soient un peu scientifiques pour comprendre ce que veut dire être sémite, etc. Mais bon, vraisemblablement, ça s'est pas du tout passé comme l'ont reporté certains journaux. Alors même si, quelle idée de passer proche de ces deux synagogues, là, je pense que dans les organisateurs, ils ont un peu joué au con, parce qu'il y a toujours dans ce genre de manif, avec tous les morts qu'on voit tous les jours à la télé, des gens qui sont très très énervés, et quand on est très énervé, on peut dire des conneries et faire des conneries. Sauf que, il y a des grosses vidéos qui tournent, et on voit vraiment effectivement que la provocation, quand ils sont passés devant les synagogues, effectivement il y a eu de la provocation verbale, mais que les gens qui défendaient la synagogue entre guillemets, un groupuscule d'extrême droite qui s'appelle la Ligue de défense juive, c'est elle qui a fait les plus grosses provocations, et c'est elle qui a attaqué. Du coup, il y a une bonne vidéo qui dure 5 minutes où on voit vraiment l'extrême droite juive française en action. Bon, on en a déjà parlé de la Ligue de défense juive, c'est un truc incroyable hein, puisque c'est un groupuscule d'extrême droite qui est interdit en Israël et aux États-Unis. C'est pour dire que c'est des groupuscules dangereux. Et en France, non. Quel que soit le gouvernement, donc je ne sais pas comment ils font pour avoir des protections qui montent jusqu'en haut, hein, parce que du coup c'est pas lié à la couleur politique, mais ils arrivent à être protégés systématiquement alors que c'est vraiment des gens très dangereux. Alors ils sont défendus par le CRIF un peu tout le temps. D'ailleurs le CRIF qui est censé défendre la communauté juive défend pas la communauté juive, hein, faudrait le savoir, parce que quand d'autres juifs se font attaquer par la Ligue de défense juive, ils ne les défendent pas. Ils défendent en fait ceux qui sont avec Israël. C'est une sorte de seconde ambassade israélienne. C'est comme ça que tout le monde les reconnaît maintenant. C'est la seconde ambassade israélienne française, le CRIF. Puisqu'effectivement, on a Cohen, un écrivain pro-palestinien mais qui est juif, qui défend la cause palestinienne plutôt, qui a été agressé et qu'ils n'ont jamais défendu. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça de militants, même des militants juifs, agressés où le CRIF ne les défend pas. Parce qu'il ne défend que les gens qui sont du côté d'Israël. Donc ils ne défendent pas du tout la communauté juive. Du coup, parce qu'il y a, on rappelle, on le revoit à Lyon, parce que chaque fois il y a une banderole de l'UJFP, l'Union Juive Française pour la Paix. Ce sont des juifs qui se mobilisent pour les Palestiniens et pour la paix. Et du coup, eux, ils sont détestés par le CRIF. Donc c'est bien pour dire qu'ils ne représentent que même. Par contre, ils ont beaucoup d'appui politique, puisque tous les politiques de droite comme de gauche sont invités au fameux repas du CRIF chaque année. Voilà. Je vous laisserai lire le dernier livre de Pascal Boniface, qui raconte un petit peu son histoire et ses problèmes avec ces gens-là. Donc voilà, j'ai vu que Jean-Luc Mélenchon du Parti de Gauche avait demandé qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire pour établir la vérité sur ce qui s'est passé. Il n'y en aura pas. Il parle d'interdire la prochaine manifestation à Paris. C'est toujours un peu tendu, les manifestations pro-palestiniennes. Il faut vraiment encadrer les choses. À Lyon, il n'y a pas eu de débordement. Hier, il y avait un gros rassemblement sur la place des Terreaux. Il n'y a pas eu de débordement, même si ça s'enflamme très très vite dans les propos simplement. Mais il faut bien encadrer, même s'il faut faire attention à ce que l'extrême droite ne récupère pas. Il y avait quand même quelques militants d'extrême droite, notamment quelqu'un de l'UPR, le parti d'Asselineau, qui est un groupuscule d'extrême droite complotiste, qui était là. Voilà, il faut un petit peu faire attention. Je crois qu'on a fini sur l'actualité israélo-palestinienne. Tu voulais redire autre chose ?
Tout à fait, c'est fait.
Partout dans le monde, et là sans aucune exception, outrions la dictature et le mépris des droits de l'homme. Partout, vous y trouvez inscrit, là, en caractère sanglant, la peine de mort.
Oui, on va parler juste un petit peu de la peine de mort avec deux petites infos, une plutôt positive et une négative. On va commencer par la négative, comme ça on terminera bien. C'est le Missouri qui a donc assassiné un petit dealer de drogue, hein, qui a été condamné à mort pour un triple meurtre. Donc il avait 54 ans, John Middleton. Donc il a été déclaré mort à 19h06 hier. Donc voilà ce qu'on peut dire. Ce qui est intéressant, c'est que en dehors de la peine de mort et de l'action de ce qu'il avait pu faire lui, il y a beaucoup de doutes sur sa condamnation, hein, puisque il a été dénoncé par d'autres dealers. Donc avec des discours pas terribles, il y a eu plusieurs meurtres parce qu'il a été condamné pour d'abord un meurtre lié à la drogue et le lendemain quelques jours après il aurait tué quelqu'un d'autre parce qu'il avait pour pas qu'il le dénonce dans le premier meurtre. Et sauf que quand il y a eu des analyses scientifiques qui ont été refaites, la dernière mort qui lui est dont il serait responsable, et ben c'est pas possible puisqu'il était déjà en prison. Donc voilà, du coup il y a plein de choses qui sont pas cohérente, notamment scientifiquement. mais ça n'empêche pas qu'il a été donc assassiné par l'État du Missouri.
Et puis surtout, c'est qu'il y avait eu une suspension quelques
la
heures,
veille.
La veille. Enfin, c'était une heure, je pense, avant son exécution, si je me souviens bien, par une juge du Missouri, alors que la Cour suprême avait donné son autorisation 2 heures avant. Et puis, ben, finalement, l'État a fait appel et finalement, il a été assassiné.
Et quand c'est tombé, ils l'ont assassiné quasiment tout de suite. Hein, ils n'ont pas attendu. Voilà. Alors, ça, c'était la mauvaise nouvelle. La
bonne... Je me demandais même s'il l'avait décroché de la chaise. Ouais. Je crois, à mon avis, il l'avait gardé. Enfin, je crois que si, mais c'est quand même bizarre. Hein.
Ouais. Alors, toujours sur la peine de mort, c'est une bonne nouvelle. C'est un tribunal fédéral de Californie qui a jugé hier inconstitutionnelle la peine de mort. Alors, c'est une révolution. C'est Diane Rust Tierney, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, qui est directrice de l'Association nationale d'abolition de la peine de mort aux États-Unis. Je vais le faire en français, ça évitera d'avoir un accent pourri. Qui dit que c'est un truc assez incroyable, c'est très très important, parce que de mémoire, c'est la première fois qu'un juge dit ça comme ça, et elle explique que ce juge-là, c'est un juge conservateur qui a été nommé par George Bush et qui dit ça, c'est bon signe. Alors qu'est-ce qu'il dit exactement? Pourquoi il dit que c'est inconstitutionnel la peine de mort en Californie? Parce qu'il dit c'est un ensemble qui est complètement dysfonctionnel, qui s'apparente à de la torture mentale, et donc... La torture mentale est inconstitutionnelle. Alors il explique pourquoi. Il dit, ben voilà, on condamne des gens à mort, après il reste des années, des dizaines d'années, des 20, 30 ans dans le coma de la mort, donc ils sont dans une torture psychologique permanente, et on les assassine n'importe quand, ils savent pas pourquoi, ils savent pas comment, voilà. Donc il dénonce toute la... Alors, vous allez me dire, est-ce que si jamais le système était efficace, c'est-à-dire le mec est condamné et tué le lendemain, il serait contre? C'est pas sûr, parce que son argumentaire dit que c'est effectivement de la torture mentale. Après, il estime quelque part, tout doucement, que ça marche pas non plus la peine de mort. Voilà. Donc c'est quand même très important à savoir qu'il y a 748 personnes qui sont dans le couloir de la mort en Californie, qui attendent d'être tuées. Donc voilà.
Et si ça vous intéresse, vous pouvez aller lire le nouveau rapport d'Amnesty International sur la mise en isolement des prisonniers aux États-Unis d'Amérique. C'est terrible. Le nombre de temps qu'ils y passent est absolument terrible, terrible. Alors on va partir maintenant sur autre chose. On va parler de la Cour européenne des droits de l'homme qui, ces dernières semaines, s'est activée. Je ne sais pas si il et elle souhaitent partir en vacances, mais en tout cas, il y a des décisions qui tombent. Celle de la journée, ça concerne la Russie. C'est un arrêt définitif de la Cour européenne des droits de l'homme qui est donc tombé aujourd'hui. Vous vous souvenez peut-être de ces cages métalliques dans lesquelles nous avons pu voir par exemple les Pussy Riot dans les salles de procès en Russie, ça vous dit quelque chose? Ouais. Et ben ces cages métalliques vont devoir définitivement disparaître, en tout cas la Russie est normalement contrainte d'en tenir compte, sauf que je vous laisse imaginez ce que pense la Russie de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors ces deux Russes qui avaient subi cet enfermement, qui avaient saisi la Cour européenne des droits de l'homme, il faut dire que c'est une cage, juste pour vous donner une idée, parce que je ne vous l'ai pas dit, qui fait 2,50 m sur 1,50 m.
Oui, c'est petite cage.
Alors il paraît que si jamais ils mettaient des cages, c'était pour assurer l'ordre. Alors la Cour européenne des droits de l'homme, elle a quand même signifié que mettre des gens derrière des cages, c'était quand même les désigner tout de suite comme des gens dangereux. Et un peu coupable, quand même. Elle a énuméré des sentiments ressentis, donc je me répète un peu, excusez-moi. Elle parle d'humiliation, d'impuissance, de peur, d'angoisse et d'infériorité. Et elle a ordonné à la Russie de verser 10 000 euros à chacun des deux requérants au titre du dédommagement moral. Voilà, c'est un système qui était en place depuis 1994 en Russie, qui pour l'instant... Elle est encore, hein, au jour d'aujourd'hui. Et puis, je voulais repartir en Bosnie-Herzégovine. Hier, c'est la même Cour européenne des droits de l'homme qui a demandé à la Bosnie de mettre fin à son système électoral discriminatoire. Alors, je vous rappelle que c'est un truc un peu particulier. C'est un système qui date des accords de paix de Dayton en 1995. Ça met donc fin à la guerre et ça met en place surtout un nouveau système électoral qui réserve aux citoyens musulmans, serbes et croates l'accès à la chambre haute du Parlement et à la présidence tripartite de l'État. Le problème, c'est que Azra Zornic, elle a décidé de pas déclarer son appartenance à un groupe ethnique en particulier et donc elle a été déclarée inéligible à la chambre haute du Parlement et à la présidence du pays, ce qui fait qu'elle a saisi la Cour européenne des droits de l'homme qui a sanctionné la Bosnie-Herzégovine mais qu'il avait déjà été en 2009. Donc, comme vous voyez, parfois, c'est pas parce que la Cour européenne des droits de l'homme, elle dit un truc, que derrière, c'est suivi d'efficacité. La seule chose qui pourrait faire changer le pays, c'est que c'est la condition pour entrer dans l'Union européenne. Donc, peut-être qu'à long terme, ça peut marcher un petit peu sur les droits de l'homme, mais enfin, pour l'instant, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et juste pour vous dire qu'elle a beaucoup travaillé, par exemple, la semaine dernière, jeudi dernier, c'est la France qui a été condamnée elle, sur le regroupement familial, puisque la Cour européenne des droits de l'homme demande de traiter les dossiers avec plus de souplesse, de célérité et d'effectivité. Elle condamne aussi la France pour violation du droit au respect de la vie privée et familiale, c'est-à-dire qu'elle estime que la France va trop loin dans sa protection contre l'immigration. En voulant les contrôler, elle va trop loin sur le respect de la vie privée et familiale, et puis surtout que la France est trop lente. C'est trois requérants qui avaient porté ce dossier devant la Cour européenne. Ils ont obtenu 5000 euros au titre de dédommagement moral.
On part à Singapour maintenant.
Oui, sur toute autre chose. Alors, vous le savez peut-être ou vous le savez peut-être pas, mais il y a un mouvement LGTB important à Singapour qui en tout cas se développe, il se passe des choses.
Donc, gay, lesbien, trans...
Oui.
Je redis LGTB, ce que ça veut dire.
Et il faut savoir qu'à côté de ça, bah, c'est comme chez nous, il y a un fort mouvement homophobe,
qui tu m'étonnes.
Est porté par l'État conservateur, le gouvernement est conservateur. Alors, c'est une affaire qui a démarré il y a quelques jours, puisque la Bibliothèque nationale de Singapour a fait retirer trois livres qui, soi-disant, sont scandaleux. Alors, il y a une histoire avec deux pingouins mâles qui élèvent un bébé pingouin, c'est pour les enfants. Hein.
Ah, c'est scandaleux ça.
Oui. Il y a un autre livre sur des enfants adoptés, mais... par des parents homo, mais pas seulement, hein, ça parle de l'adoption. Et puis un autre livre qui aborde tous les types de familles, avec aussi le cas de...
famille homoparentale.
Ouais. Enfin bon, tout ça. Et alors, donc évidemment, alors là c'est parti dans la communauté intellectuelle et littéraire à Singapour, donc on parle d'autodafé, on parle de censure. Il faut savoir qu'à côté de ça, la Bibliothèque Nationale de Singapour, elle organise et finance tout un tas d'activités qui devaient avoir lieu là en ce moment, ou qui vont avoir lieu, et il y a tout un tas d'écrivains, d'intellectuels qui sont en train de se retirer. Alors par exemple, il y en avait qui étaient dans des jurys de festivals, ben ils ont quitté le jury. Il y en a d'autres qui devaient être des intervenants dans des festivals, ils sont partis aussi. Voilà, il y a tout un tas de mouvements qui est en train de se créer comme ça, d'activités, d'actions qui sont en train de se mener. Et c'est pas juste un truc Facebook et réseaux sociaux, hein, attention, hein, c'est du sérieux un peu, quoi. Donc, alors, le gouvernement conservateur, je vous le disais, a expliqué, argumenté que c'était une décision qui était guidée par les normes de la collectivité. Alors, j'aimerais quand même aussi vous rappeler que c'est un délit, l'homosexualité à Singapour, et que vous pouvez prendre 2 ans de prison. Tout simplement, hein, quand même. Donc il nous explique quand même, il nous rappelle que les normes, c'est la famille conventionnelle, non pas une famille alternative, non traditionnelle, ça on aura bien compris, et que les livres, bah, ils ouvrent une porte et que ça va pas. Ce qui est très drôle, c'est que il y a Sonny Liu, c'est quelqu'un qui est très connu à Singapour, il a une BD qui s'appelle Archie, The Married Life, donc ça parle d'homosexualité, et le tome 3 met en scène un mariage homosexuel, et ben dans les librairies, vous pouvez plus trouver le tome 3, donc ça passe, ça fait 1, 2, 4, 5. Et voilà, enfin, il paraît qu'il va continuer en plus parce qu'il a d'autres séries dans sa BD dans lesquelles il continue à parler de l'homosexualité, donc il risque d'avoir encore quelques soucis. Voilà, c'est pas simple un peu partout dans le monde, on vous disait tout va bien.
La révolution passera par le vélo, camarade. Ah, la bicyclette.
Radio Camille, la rebelle.
Voilà, c'est l'heure de la page un petit peu environnement de ce Canu Info. On va parler d'abord du Lyon-Turin, vous savez, ce projet de train inutile, grande vitesse, qui va traverser les Alpes, il est un peu tout bousillé. Alors, c'est une première victoire juridique qui est assez peu importante, mais qui est symbolique, puisque c'était le 11 juillet, des opposants étaient poursuivis par la société Lyon-Turin Ferroviaire, donc c'était même un militant qui était poursuivi, qui s'appelle Daniel Ibanez, pour injure publique. Donc lui, il a contesté, ce truc d'injure, il disait que voilà, ça lui était attribué par un journal, mais qu'il n'y avait pas injure dans cette affaire. affaire. Et devant le tribunal, avant de rentrer et d'entendre la sentence, il a dit, s'il y a une injure dans certains faits, c'est une injure due au bon sens en voulant utiliser des deniers publics pour un projet inutile détruisant des terres agricoles. Donc voilà, il n'était pas tout seul, hein. Il y avait 150 militants français et italiens devant le palais de justice de Chambéry ce 11 juillet. Et le tribunal a décidé que la citation à comparaître était irrecevable. Il faut dire que la société Lyon-Turin Ferroviaire devait amener des documents comptables, je sais pas pourquoi, mais ils devaient amener les bilans, les comptes de résultats, des choses comme ça. Ils ont rien fait. Ils sont arrivés comme ça, la gueule enfarinée. Du coup, le tribunal a dit, vous jouez pas le jeu avec les règles. Vous rentrez chez vous. Alors, c'est une bonne nouvelle, c'est une première victoire, même si il pourrait faire appel et recommencer et continuer dans la procédure. On rappelle qu'il y a des manifestations qui commencent le 17 juillet, du 17 au 27 du côté italien, dans le Val de Suse, pour continuer à s'opposer à cet énorme projet inutile, dont le but est, je vous le rappelle, de construire une ligne de TGV pour les passagers. Pour aller plus vite, pour gagner grosso modo une demi-heure, hein, pour aller de Lyon à Turin, alors qu'aujourd'hui la ligne passager est jamais complète et que la ligne de transport de marchandises est quasiment inutilisée tellement qu'il y a peu de trains remplis de marchandises qui circulent, donc on n'en a pas besoin. Sauf peut-être pour enrichir des sociétés qui vont construire tout ça, qui vont faire des trous dans la montagne, qui vont bétonner tout ce beau monde et poser des rails. On part au Japon, et on va parler un peu de nucléaire, puisque, attention, ça a été annoncé hier, une centrale nucléaire dans le sud du Japon va pouvoir redémarrer. Alors, jusqu'à l'année dernière, il y avait deux centrales nucléaires qui tournaient quand même au Japon, mais l'année dernière, ils ont décidé d'arrêter les deux dernières, donc du coup, ça fait peut-être depuis l'été dernier, presque un an, qu'il n'y a plus du tout de centrales nucléaires qui tournent au Japon. Mais là, le Premier ministre Shinzo Abe, hein, qui défend hein, le nucléaire, qui est très fan du nucléaire, il veut essayer de redémarrer certains réacteurs. Alors, il y a l'autorité de régulation nucléaire, qui est une autorité indépendante, un peu comme nous, on a des autorités nucléaires qui sont en théorie indépendantes, qui a mis des nouvelles normes sur les centrales nucléaires suite à la catastrophe de Fukushima, des normes de résistance au séisme et au tsunami. Et face à ça, certaines entreprises ont essayé de remettre à jour leur réacteur. Alors c'est le cas de cette entreprise qui s'appelle Kyushu Electric, qui a donc une centrale, la centrale de Sendai, qui l'a remise à jour, ça a coûté 2,2 milliards, et qui veut la redémarrer, et qui, a priori, a obtenu l'accord, donc il devrait pouvoir redémarrer cette centrale. Ils en ont une autre aussi qui a été remise en état et qui devrait peut-être pouvoir redémarrer. Alors, c'est quand même une mauvaise nouvelle de redémarrer le nucléaire dans cette région ô combien sensible, mais il y a d'autres projets, malheureusement, de redémarrage nucléaire. Il y a 52 demandes sur le tapis. Alors, ce qui est rassurant, c'est qu'a priori, sur les 48 réacteurs du pays, il y en a deux tiers qui ne pourront pas redémarrer. Parce que, avec les nouvelles normes qu'ils ont imposées, c'est impossible de qu'elles respectent ces nouvelles normes. Parce qu'elles sont construites sur ces endroits trop dangereux, des choses comme ça. Alors, quand je dis qu'elles ne redémarrent pas, elles redémarreront pas s'ils ne changent pas les normes, parce qu'ils sont capables de supprimer toutes les normes pour faire redémarrer les centrales nucléaires. Alors, à savoir que sur cette centrale de Sendai, il y a une ville pas très loin, qui est à 5 km, c'est Ishikikushi-kino, désolé pour l'accent japonais que je n'ai point, et la moitié des habitants de cette ville ont signé la pétition contre le redémarrage. Il faut dire qu'ils sont à 5 km, donc si ça pète, ils meurent instantanément, quoi. Donc du coup, ils ont un peu peur, maintenant qu'ils savent que ça peut péter, les centrales nucléaires. Donc voilà, ce qui n'empêche pas le gouvernement de les redémarrer. Donc voilà, c'est quand même une mauvaise nouvelle, mais c'est pas non plus catastrophique. Et pour terminer, moi, dans ma partie environnement, et après Delphine terminera avec sa partie à elle, j'ai un truc drôle. Ouais, un truc un peu sympa pour terminer ce Canu Info, pour l'avant-dernière info de ce Canu Info. Donc, c'est l'extrême droite américaine, vous savez, les rednecks, là, les blancs beaufs dans les campagnes américaines, qu'on voit dans les films, hein, c'est toujours un peu glauque, qui sont dans leur gros pick-up 4x4, avec leur veste, enfin voilà, bon, une espèce de caricature, mais qui est malheureusement un phénomène important aux États-Unis dans ces campagnes. C'est un vrai truc, c'est pas une caricature de film où on voit des rednecks quasi néo-nazis ou très à l'extrême droite. Et ces gens-là, pour s'opposer, parce qu'ils détestent Barack Obama, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est noir. Déjà, ça aide pas. Et qu'en plus, pour eux, il est à gauche. Bon, pour nous, il serait à droite, mais pour eux, il est à gauche. Donc du coup, ils aiment pas Barack Obama pour ces deux raisons. Du coup, dès que Barack Obama fait quelque chose, ils font quelque chose contre lui, systématiquement. Et alors là, Barack Obama, depuis le 2 juin, a signé, a mis en place un plan contre le réchauffement climatique. Alors c'est un truc qui sert à rien, hein, qui est des mesures pour inciter. Alors s'il y a des mesures sur les centrales thermiques pour faire qu'elles polluent un peu moins. Et puis après, c'est essayer d'inciter à ce qu'il y ait des énergies renouvelables, des voitures moins polluantes, des choses comme ça. Un truc léger, quoi. Mais alors, les groupuscules, ces rednecks américains, là, ces groupes d'extrême droite anti-Barack Obama, eux, ils font plein de choses anti-écolo. Et notamment, c'est développé depuis quelques temps. Alors, ça date pas de ce 2 juin, mais ça existait avant. Mais là, ça a été relancé énormément le 2 juin avec un truc qui s'appelle le rolling coal ou le coal rolling. On le met dans le sens qu'on veut. Donc, c'est des mecs qui transforment leur pick-up et qui émet des grosses fumées noires. Alors, soit tout le temps, soit surtout à volonté. C'est-à-dire, quand ils passent à côté d'un cycliste ou d'un piéton, ils émettent des grosses fumées polluantes noires pour dire, regardez, nous on pollue, on adore détruire l'environnement, on adore vous rendre malade, et on assume jusqu'au bout. Et donc ce phénomène de coal rolling ou de rolling coal se développe énormément. Donc depuis le 2 juin, c'est la grosse mode chez les rednecks américains. Donc ils ont leur gros pick-up, ils les transforment. Donc il y a des kits à monter, hein, pour notamment pour enlever les trucs qui pourraient diminuer un peu la pollution. Ils rajoutent comme ça des trucs chimiques et toxiques, et on a donc ces gens qui sont tout fiers de détruire la planète, de détruire l'environnement. Grosso modo, si vous êtes piéton ou cycliste et que vous en avez un qui passe à côté de vous, ben voilà, vous allez avoir une grosse fumée noire dans la gueule. c'est pour dire que quand même, ils sont très cons.
Alors, on va parler un petit peu des animaux.
Ah ouais, les petits animaux qu'on caresse.
Bon, on va parler de moutons, plus précisément.
Ouais, c'est pas super, hein, le mouton, bon. C'est bon.
Tu veux dire que c'est pas glamour?
Si, c'est bon à manger. Pardon.
Alors, ah oui, on va parler de trucs un peu sérieux quand même, si tu veux bien. On va parler de PETA. PETA, vous savez, c'est cette organisation de défense des droits des animaux qui fait souvent des enquêtes assez fortes. Et donc là, ils se sont intéressés aux moutons et à leur laine. Donc, ils sont allés en Australie et aux États-Unis. Ils ont envoyé en Australie 3 militants de fin 2012 à mars 2014. Ils sont fait passer pour des ouvriers. Ils ont donc pris des caméras cachées. Ils sont rentrés dans 19 ateliers de tonte dans les États australiens de Victoria, de Nouvelle-Galles du Sud et d'Australie méridionale. On vous rappelle que l'Australie, c'est le
pays du mouton.
Du mouton et de la laine. Dans ces établissements, il y a ces 4 millions de moutons qui sont tendus chaque année, nous explique-t-il. Et ils ont envoyé un autre militant filmer la tonte des moutons dans 14 ranchs aux États-Unis d'Amérique, entre la mi-mars et la mi-mai 2014. Et donc, ils sont venus avec leur vidéo. Et la semaine dernière, ils ont commencé à publier tout ça. Alors c'est horrible. Moi, je vous le dis tout de suite. Moi, c'est vraiment des choses avec lesquelles j'ai beaucoup de mal. Donc,
on aurait pu imaginer que, contrairement aux abattoirs, on sait d'office que c'est horrible, hein, parce qu'on va tuer des animaux. Là, la tonte, normalement, les animaux, on les torture pas. Le but, c'est qu'ils continuent de faire de la laine après.
Ouais. Ben sauf que les vidéos, elles montrent des bêtes terrifiées. Mais vraiment, hein, c'est un mouton qui bêle, enfin, truc, c'est horrible. On voit des ouvriers qui donnent des coups de poing. On les voit manipuler des outils et ils font mal à la bête. Hein, ouais. Ils les entaillent, ils les accrochent. Les bêtes, elles saignent. Il y en a certaines qui meurent dans ces opérations. C'est très très choquant. Alors comment on en est arrivé là? Ben on en est arrivé là juste parce que c'est le capitalisme et que les tondeurs, et ben il faut qu'ils aillent vite. Donc ils sont non pas payés à l'heure mais au volume. Donc ben voilà, il faut faire de l'argent, et comme ils sont pas forcément tous avec des salaires de ministres, comme on dit, et ben du coup ben ils y vont vite, hein, sur la bête, hein, parce qu'il faut faire du pognon. Alors bon, c'est pas nouveau, hein. PETA avait déjà fait remarquer que les moutons étaient maltraités, que on se mettait de la laine sur le dos en oubliant un petit peu ce qui se passait dans certaines de ces, j'allais dire des abattoirs, j'allais faire.
Oui, pas tout à fait.
C'est pas tout à fait ça, mais enfin dans ces usines à moutons, puisque c'est quand même, hein, des grosses exploitations. Hein, si on n'est pas chez le petit éleveur, hein, l'Australie c'est quand même un pays avec des énormes cheptels d'animaux. Alors les organisations de producteurs officiels ont juré la main sur le cœur qu'ils avaient une tolérance zéro en cas de maltraitance animale, mais en même temps ils minimisent les choses. Donc c'est oui c'est grave, mais en même temps c'est pas vrai, parce qu'on a beaucoup formé, on a mis beaucoup d'argent pour former les tondeurs. Donc bon, en même temps ça doit être quand même pas tout à fait vrai. Alors PETA donc incite à plus porter de laine. Moi c'est pas que je suis contre, le problème c'est que porter du coton c'est de la merde aussi. Je vous rappelle que soit c'est des gens réduits en esclavage qui ramassent le coton, soit alors vous avez tellement de produits chimiques dessus, oui, que tout est pourri.
Une des cultures agricoles qui nécessite le plus d'intrants chimiques et polluants.
Donc il ne reste plus qu'à combattre définitivement le capitalisme, ou alors à vivre comme nous y incitent les fémènes, à poil. Moi je suis pas contre.
Non, stop, l'hiver il fait froid.
Reste que c'est un problème insoluble de savoir comment on s'habille, parce que soit vous avez des teintures dessus qui sont pourries, soit vous avez le coton qui réduit les gens en esclavage, je vous le disais. Soit, voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que le problème, comme le dit PETA, c'est qu'on ne sait pas d'où vient la laine. C'est parce que c'est vos t-shirts, on a beau dire qu'il est made in France, la laine, vous ne savez pas d'où elle vient. Enfin, le coton,
pas
vous ne savez pas d'où il vient.
La laine,
vous ne savez pas d'où elle vient. Pareil, hein, quand vous achetez un plat cuisiné, on vous dit peut-être qu'il est fait dans une usine en France, mais vous ne savez pas d'où vient votre riz dedans, votre viande et votre tomate. Donc voilà, c'est un problème qui n'est pas juste sur cette problématique-là, même si PETA a bien raison de le souligner.
Non, puis sur les plats cuisinés, on peut s'en passer, on vit très bien sans plats cuisinés, parce qu'on peut acheter des légumes au marché. Sur le coton, c'est un peu plus difficile d'acheter le coton et de le tisser soi-même. Enfin, je ne sais pas faire, moi.
Non, mais déjà, tu le produis, à mon avis, toi-même. Parce que sinon, ça devient compliqué de l'acheter soi-même.
Je vais faire une info commerciale. Il y a une entreprise.
Ouais, bravo, je ne suis pas tout à fait d'accord.
Ouais, mais j'ai perdu le nom de l'entreprise qui fait ça. Mais il y a une entreprise de la Loire, vers Saint-Etienne, à Saint-Etienne d'ailleurs, je crois qu'ils font ça. Ils fabriquent un jean qui s'appelle le 1000 quelque chose, qui est la distance, en fait, totale parcourue pour fabriquer le jean. Donc, il fait en coton. Ils expliquent que c'est tissé en Italie, puisqu'il n'y a aucun tisseur en France qui tisse ça. Ils expliquent tout, et du coup le jean il coûte je crois une 80aine d'euros, c'est-à-dire le prix d'un jean de marque, et qu'avec des trucs le plus local possible. Et c'est ce qui est intéressant dans la démarche, c'est une entreprise dont le but est de gagner j'imagine de l'argent, mais c'est à petite échelle, mais c'est que quand on voit ce qu'ils essayent de faire, c'est tous les problèmes qu'ils rencontrent, c'est-à-dire qu'au départ ils voulaient, parce qu'ils vendent d'autres choses, des choses qui fassent 100 km, vous savez l'idéal c'est pas plus de 100 km, sauf que fabriquer un jean avec 100 km, c'est pas possible. Le coton, il faut l'avoir, il faut le tisser, il faut le teindre. Il y a plus beaucoup d'industries dans certaines régions qui sont parties, etc. Alors, il y a une partie des choses qui sont faites à Saint-Étienne dans ce qu'ils font, mais voilà, ce qui est plus intéressant, c'est de voir que les galères qu'il y a à vouloir faire des choses localement, en fait.
Alors, on notera aussi quand même une différence entre le coton et la laine, c'est que la laine, il y a un animal, le coton, c'est pas tout à fait le cas.
Oui,
il y a des gens qui sont exploités, certes, aussi derrière, mais d'ailleurs, les tondeurs le sont aussi, hein, parce que pour travailler dans ces conditions, ça ne doit pas non plus être terrible quand on se lève le matin et qu'il faut aller bosser pour aller maltraiter de la bête, même si peut-être qu'au bout d'un moment, le cerveau bloque là-dessus. Ouais. C'est pas un truc naturel, hein, de malmener un animal. Voilà, donc bon, voilà, j'avais envie de vous raconter ça, et on termine donc du coup par un truc pas très drôle, on en est bien désolé.
Oui, alors je vais quand même vous faire un petit agenda, moi, parce que...
Allez, c'est parti.
Je sais pas, parce qu'une partie des gens sont partis en vacances, ou ont arrêté de travailler, ou se reposent, tout simplement, ou continuent d'être exploités. Mais en tout cas, il se passe encore des choses, notamment liées à la Palestine et à Israël, puisque hier soir, il y avait un rassemblement Place des Terreaux. Le prochain rassemblement, peut-être manif, mais pour l'instant, c'est annoncé que rassemblement, on verra. Samedi à 15h, place Bellecour, donc dans le centre-ville. La semaine dernière, il paraît qu'il y avait 5000 personnes quand même. Hein. C'était vraiment très très gros. Donc il faut continuer de se mobiliser. C'est que symbolique en France, bien évidemment. Mais c'est important, du coup, le symbole. Ne serait-ce que pour faire pression sur Hollande et toute sa clique qui prennent parti pour le mauvais, comme d'habitude. Après, soutenir les patrons, maintenant ils soutiennent Israël. C'est un peu difficile. Alors ils soutenaient peut-être déjà les patrons israéliens, mais du coup c'est important qu'il y ait des gens dans la rue et qu'il y ait le plus de mobilisation possible et différente, voilà, qu'il n'y ait pas d'instrumentalisation ou le moins possible pour gueuler, pour que ça s'arrête et qu'il y ait la paix. Qu'on soit pour deux États ou un seul État binational, voilà, l'important c'est que ça s'arrête.
Tu sais que sur les 5000 personnes, c'est très drôle, mais la presse locale, après cette manifestation de samedi, avant de parler, et j'ai vu l'article de Lyon Capital qui maintenait le 5500, mais au début, il y en a plusieurs qui ont annoncé 5500, puis il y a le Progrès qui a annoncé 5000, il y en a un deuxième qui s'est mis à 5000, et puis après, ils ont tous rectifié leur titre pour passer de 5500 à 5000. Donc c'est drôle, on se demandait même s'ils y étaient finalement certains pour ne plus savoir bien combien il y avait de personnes. Et en quelques heures et en quelques minutes, on voyait donc les titres sur les sites internet qui changeaient, c'est toujours très drôle.
Il nous reste 30 secondes avant de passer la main à la petite cuillère. On vous rappelle que les canuts infos, c'est un peu aléatoire hein, pendant l'été, mais qu'il y en a quelques-uns qui tiennent, et que la campagne de dons est toujours active. Si vous voulez soutenir la plus rebelle des radios qui cherche à se loger et avoir un local à elle, vous pouvez envoyer vos dons à Radio Canu, boîte postale 11 01 69 201 Lyon, CEDEX 01. Voilà, c'est la fin de ce Canu Info du jeudi. Vous pouvez retrouver toutes les infos sur le blog de l'émission. On attend la petite cuillère qui va essayer de s'installer, mais je crois qu'on va lancer les bandes continues en attendant. Donc voilà, rendez-vous.
Allez, la semaine prochaine, on va essayer d'être là.
Ah, la semaine prochaine.
Ah, il est content, j'avais dit non, mais
je
serai là.
La faire.
Allez, à la semaine prochaine. Ciao.